Est-ce qu'il y a nécessité de rappeler le charisme de la garde d'honneur? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent qu'on redonne à quoi ça consiste de en simplicité? Ouais, il y a une petite, d'accord. Ça servira aux autres, vous savez. Et alors très rapidement, ce que j'ai, comme toujours, toujours beaucoup de choses à dire. Alors le charisme de la garde d'honneur, c'est de choisir une heure tous les jours la même heure. Désolée, ça sonne. Tous les jours la même heure. Et pendant cette heure, je vais offrir ce que je fais. Donc c'est pas, et j'insiste, c'est pas une heure de prière, c'est une heure d'offrande de ce que je vais faire pour consoler son cœur et réparer pour mes péchés et les péchés du monde. Donc ce qui veut dire que si vous choisissez l'heure à laquelle vous êtes à faire la cuisine ou à aller faire vos courses ou au contraire il y a un coup de téléphone qui vous dérange pendant la préparation de votre cuisine, eh bien je vais offrir ça, même le coup de téléphone, et je me branche entre guillemets, c'est-à-dire je prends conscience, je pose un acte volontaire de m'unir à Jésus présent au tabernacle. Après, avec une grâce, sans une grâce particulière, on ne peut pas penser à Jésus, on va dire à H24, c'est-à-dire tout le temps, minute après minute, hein, ce qui nous apprend l'humilité, notre désir d'être le plus possible présent à la présence, eh bien, c'est un désir et il faut, la preuve, c'est qu'il faut du coup aller dans ce sens, mais c'est impossible. Donc, je fais des œillades pendant mon heure, hein. C'est un terme que je reprends à Saint-Louis-Marion de Montfort. Et du coup, voilà, je pense à Jésus. Puis après, je reviens à ma conversation ou je reviens à mon steak que je suis en train de faire cuire dans la poêle. Mais voilà. Alors, quand on oublie, ce n'est pas un péché. Je supplée au moment où j'y pense. Hein, 5 heures, ça, j'avais rendez-vous à 5 heures. À 20 heures, je m'en rends compte. Ben, je fais mon heure de présence à 20 heures. Donc, ce n'est pas un péché. Et il y a une deuxième heure, en sachant qu'il faut faire la première heure, la deuxième qu'on appelle l'heure de miséricorde, qui n'est pas obligée de commencer à l'heure de miséricorde instituée par Sainte Faustine à la demande du Sacré-Cœur. Hein. C'est on choisit l'heure à laquelle on veut la mettre, mais il faut faire déjà la première. Et ce qui va se vivre de la même manière que l'heure de présence, de la même manière, et elle est vécue pour la conversion d'une personne, de plusieurs personnes ou d'un pays. Voilà, on mettra les initiales des personnes pour lesquelles on va offrir cette deuxième heure. Et un autre détail, quand vous dites à Jésus, bon bah mon heure est offerte pour toi, et j'oublie, si vous voulez, comme je disais, c'est difficile de penser à lui toute l'heure, comme vous lui avez dit au début, et entre guillemets, alors c'est dans la pastorale des Santons de Provence qui dit. Dieu n'est pas rancunier, quoi. Donc Dieu n'est pas rancunier. S'il nous oublie, si on oublie hein, pendant notre heure, ben justement qu'on était là pour lui, eh bien, on lui a dit au début que notre heure était pour lui. Hein. Donc, ben voilà. Enfin, vous voyez, ça doit se vivre paisiblement. S'il y a du scrupule, s'il y a de la culpabilité, il faut plutôt s'interroger sur est-ce que j'ai pas une montagne d'orgueil qui fait que je prends mal le fait que à mes yeux j'ai pas réussi. Hein. Je suis pas belle dans mes miroirs. Hein. C'est ça l'orgueil, hein, c'est des miroirs. Hein. Et mais bon, on en a déjà parlé puis tout le long parce que de toute façon c'est toujours un sujet de conversion. En plus on est en plein carême. Alors est-ce que je réponds brièvement, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Claire, ouais. On peut choisir de vivre une deuxième heure de la même manière que l'heure de présence. Cette deuxième heure s'appellera l'heure de miséricorde. Ça avait été demandé par un prêtre à Sœur Marie du Sacré-Cœur, Bernot. Mais du coup, autant la première, c'est pour consoler le cœur de Jésus des péchés que je peux commettre et ceux du monde entier. La deuxième sera vécue dans une démarche de conversion d'une personne. Par contre, si l'objectif atteint est différent, la manière de vivre l'heure est la même. D'accord? Alors, souvent, et vous le dites tous, que au final, on vit toutes nos journées comme ça. Hein, c'est le but. Hein. Mais, il y a un rendez-vous. Voilà. Donc, c'est une éducation et c'était ça derrière, comment dirais-je, l'heure de présence qui va être demandée par le Sacré-Cœur à Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot pour pour réveiller la visitation qui s'était attiédie dans sa dévotion du Sacré-Cœur. Voilà, c'est une éducation à prendre conscience qu'il est à mes côtés, il m'habite, il mendie mon amour, et on pense que nous, donner de l'amour à Jésus, c'est quand je vais m'arrêter à l'église pour dire mon chapelet, quand je vais à la messe, là je lui dis que je l'aime. Oui, mais c'est pas que là, c'est un quotidien, quoi. Hein. Et il faut pas laisser la présence qui nous habite tout seul. Hein. Donc, toute seule, pardon. Donc, Jésus mendie ce petit quotidien, ces petits riens. Hein. Et c'est de cette manière-là qu'en offrant nos petits riens avec beaucoup d'amour, on est transformé. Hein, par cette présence qui nous habite, et c'est ça la sainteté. Hein. C'est pas à coup, je l'ai dit et redit, à coup de prière, à coup de mortification, même si on est en carême, s'il n'y a pas l'amour, vous pouvez même augmenter l'orgueil en faisant des mortifications. Hein. Notre saint fondateur, c'est toute sa spiritualité, c'est ça. Hein. Mais on va avoir l'occasion d'en parler parce que.
Est-ce qu'on peut mettre plusieurs personnes pour la deuxième heure?
Oui, mais oui, tout à fait. Il n'y a pas de restriction de.
Ouais. Faut s'inscrire, oui, c'est ça.
Faut inscrire les initiales.
Comme la garde d'honneur,
oui, voilà, de la même manière. Par contre, vous mettez que c'est bien. Enfin, si vous allez sur le site, par exemple, vous faites ça par le site, eh bien, par le biais du site, que ce soit à Paris ou chez nous, eh bien, on vous le proposera. C'est vrai que, administrativement parlant, depuis que le film Cœur de Jésus, Sacré-Cœur est sorti, bon, ça explose toujours. Hein. Maintenant, il est parti à l'étranger. Et donc, alors, l'étranger, moi, je renvoie à Paris le Monial. Mais ce qui est très beau, c'est que, peut-être que c'est le DVD hein, qui fait des suites, mais j'ai toujours 4 inscriptions en moyenne par semaine. Donc c'est vrai que quand on passe par le site pour les inscriptions, pour moi c'est beaucoup plus facile à gérer, ça, on va dire ça me gagne du temps. Et comme je peux pas dire que je sais de quoi m'occuper, et du coup si ça, pour vous c'est pas compliqué d'aller... Alors aujourd'hui on a beaucoup de monde, s'il manque des chaises, je crois qu'il en reste encore, ouais voilà, je suis désolée. C'est moi qui étais un peu feignante, du coup je n'ai pas trop sorti. Et voilà. Donc on va prier Saint-Esprit, même si on a commencé. Pour la petite, on va attendre qu'il s'installe. Est-ce que ça vous gêne là le petit écho? Un peu, non? Non, ça va? Oui, voilà. Il y a un écho avec le micro là. C'est bon. Voilà. On prie Saint-Esprit et puis on commence, on prend la suite de ce que j'avais un petit peu annoncé, sans oublier la dernière partie, on va dire, préparatoire au carême. Hein. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et toutes choses seront créées, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, illuminez les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, accordez-nous de penser ce qui est droit selon ce même Esprit et de jouir sans cesse de ses consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen.
Jésus, doux et humble de cœur, et Marie, conçue sans péché. Alors voilà, la dernière fois on s'était quitté sur... une présentation un petit peu pourquoi nous avions vu la dernière fois que la visitation n'a pas attendu Sainte Marguerite Marie. C'est, on est dans la troisième apparition du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie et on s'était arrêté sur « Fais-moi le plaisir de me rendre amour pour amour ». Et pour accueillir donc dans que la visitation n'avait pas attendu Sainte Marguerite Marie pour accueillir dans sa spiritualité le Sacré-Cœur. Et je vous avais parlé comment dans le prolongement, et ça viendra plus tard, la fête du Sacré-Cœur, dans le prolongement de l'octave de la fête du Saint-Sacrement, notre saint fondateur avait eu hein, cette inspiration géniale de nous donner le blason, hein, donc ce cœur qui est percé par les deux flèches, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et en même temps c'est aussi le Sacré-Cœur, mais c'est aussi le cœur de la visitandine. Donc je vous laisse faire tout seul la conclusion que le cœur de la visitandine doit devenir le Sacré-Cœur, pardon. Et ça c'est tout un programme. Selon notre bienheureux père, ces filles avaient été établies particulièrement en ce siècle pour être les imitatrices des deux plus chères vertus du Sacré-Cœur du Verbe incarné, la douceur et l'humilité, qui sont la base et le fondement de leur ordre. Et leur donnant ce privilège et cette grâce incomparable de porter le nom de filles du cœur de Jésus. Une visitandine, elle a plusieurs appellations. Dans les écrits de nos fondateurs, on a fille d'oraison, fille Sainte Marie, hein, fille du cœur de Jésus, fille des colloques célestes. Hein, on s'appelle, voilà. Donc cette parole est de la mère Hélène Angélique L'Huillier, supérieure à Paris. Elle sera fondatrice de nombreux couvents de la Visitation. Et elle fait publier par Monseigneur de Maupas en 1657 une vie de son bienheureux père, donc Saint François de Sales, dans laquelle on trouve cette parole qui est intéressante pour mesurer que le Sacré-Cœur était là avant Sainte Marguerite Marie et va nous aider à aborder la question de rendre amour pour amour. Alors qu'est-ce qu'elle fait écrire ? Son amour pour le Sacré-Cœur, en parlant de notre saint fondateur, notre sainte sœur, donc elle fait publier par Monseigneur de Maupas en 1657 une vie de son bienheureux père dans laquelle on trouve cette parole, son amour pour le Sacré-Cœur. Notre sainte sœur est donc antérieure aux révélations. Alors cette révélation, c'est celle-ci. Oh là, ça y est. C'est elle que Dieu révéla que Saint François de Sales, pendant sa vie terrestre, faisait son séjour dans le cœur de Jésus, qui lui inspira de fonder un ordre pour lui rendre hommage dans sa vie cachée et anéantie, par les vertus de douceur et d'humilité. Notre sainte sœur, en lisant sa biographie, hein, à cette sœur qui va donc avoir cette révélation que notre saint fondateur a vécu toute sa vie terrestre dans le cœur de Jésus, fut confirmée à ce moment-là de ses révélations. Elle-même, destinée de toute éternité, pour prendre son germe et ses racines au milieu de notre institut, pour étendre ses branches dans les maisons qui le composent, et cette grâce a été obtenue par l'intercession du fondateur. Parce qu'il vivait tous les jours dans le cœur de Jésus, il a obtenu la grâce d'avoir le cœur de Jésus pour défenseur de son institut. Il me semble que notre saint fondateur, ce vrai ami du cœur de Dieu, a été le principal moteur de ce don salutaire, écrit-elle Sainte Marguerite Marie à la mère de Sommez, fin février 1689, pour l'obtenir en faveur de notre cher institut. Parce que Satan voulait vomir sa rage et en détruire l'esprit, et par ce moyen, le renverser. C'est intéressant, hein ? La dévotion au Sacré-Cœur est un moyen, hein, de se battre, on va dire, hein, de renverser le plan machiavélique, hein, de Satan sur nos vies, et à la fois sur celle de l'Institut. Donc l'histoire de notre ordre, la Visitation Sainte-Marie, s'inscrit dans l'histoire, et du monde aussi. Pour être fidèle à la lecture des documents de Paray, on se doit de voir, dit le chanoine Pierre Blanchard, un moment décisif de l'évolution de la Visitation. C'est ainsi que l'a compris Sainte Marguerite Marie, transmettant ses visions à la mère de Sommez en juillet 1688. Elle racontait que le jour de la Visitation devant le Saint-Sacrement, et ça je vous l'avais indiqué, c'est toujours devant le Saint-Sacrement, Elle avait vu la Vierge dans la lumière du cœur de Jésus, à côté de Saint François de Sales et de Saint Claude la Colombière. Qu'est-ce qu'elle entend ? « Venez, dit la Vierge, mes bien-aimées filles, approchez-vous, car je vous veux rendre comme les dépositaires de ce précieux trésor. Voilà ce précieux trésor qui vous est particulièrement manifesté par le tendre amour que mon fils a pour votre institut. » Il faut que non seulement elle s'enrichisse de ce trésor, mais encore qu'elle distribue cette précieuse monnaie de tout leur pouvoir avec abondance et tâche d'en enrichir tout le monde sans crainte qu'il défaille, car plus elles y prendront, plus elles en trouveront. Alors vous allez me dire, fin de l'apparition, ça concerne les visitants dignes. Oui, c'est sûr, ce qui veut dire aussi, à nous de nous frapper la poitrine, que si on ne vit pas du Sacré-Cœur, si on ne suit pas l'inspiration qu'a eu notre saint fondateur de fonder cette visitation pour les faibles santé, mais aussi pour vivre, être imitatrice des deux plus chères vertus du Sacré-Cœur, en somme, on se met une balle dans le pied, on se donne la mort. Mais il s'avère quand même que la garde d'honneur, vous êtes en somme une fenêtre ouverte sur notre ordre, sur la spiritualité, la garde d'honneur, cette démarche de réparation, de consolation du cœur de Jésus. Donc quand je disais l'heure de présence est une heure, d'accord, on a un rendez-vous, mais beaucoup d'entre vous, petit à petit, inspirés par le Saint-Esprit, en arrivent à le vivre tout au long de la journée, de vivre avec Jésus. Donc, nous, c'est ce qu'on vit, en somme. Donc, la spiritualité visitandine, salésienne, elle est en même temps communiquée aux gardes d'honneur. Vous n'êtes pas une association qui marcherait en parallèle avec la visitation. Non, la preuve, c'est que beaucoup d'entre vous sont amis de la communauté, rendent service, apprécient, de venir à nos offices, mais parce qu'ils se sentent rattachés à une famille religieuse et du coup bénéficiaires d'une spiritualité. Et donc, c'est un peu pour ça aussi que je vais jusque-là, que nous, si on ne vit pas du Sacré-Cœur et on ne fait pas non plus fructifier ce talent, cette grâce, on aura en somme des comptes à rendre, dans le sens où c'est une vocation de vivre, d'une part, du Sacré-Cœur, mais d'en faire profiter les autres. Ce n'est pas que la visitandine. Alors, pour aborder le thème de la réparation qu'aujourd'hui, le Seigneur le disait à Sainte Marguerite Marie dans cette apparition, fait « Rends-moi amour pour amour ». Je sais que pendant l'année jubilaire, le sanctuaire avait profité de cet intitulé « Rendre amour pour amour » pour parler de la réparation. Parce que c'est vrai que, est-ce que ça parle encore ? Bon, réparer ? Moi, je crois que oui. Je vous dirais, je suis peut-être un peu rebelle. Quand je vois, on dit bien, on répare pour ses péchés, les péchés du monde entier. Moi, j'ai quand même conscience de blesser le cœur de Jésus. Alors, certes, pas volontairement. Une religieuse qui volontairement pêche, pour moi, il y a un problème. Après, on pêche par fragilité, involontairement, ou mauvaise habitude, mais un péché, il faut, pour que ce soit, il soit véniel, il faut que ce soit volontaire, mais on ne confesse pas, selon notre saint fondateur, que les péchés véniels. Nous, on se confesse tous les 15 jours, donc on trouve quand même encore quelque chose, et du coup, bon, pour moi, réparer, oui, si j'ai fait du mal à quelqu'un, d'autant plus au Sacré-Cœur, réparer, ça me parle, mais bon, on prend les gens là où on croit où on en est. Donc amour pour amour évoque la spiritualité de la réparation. Mais avant d'en arriver là, vous allez me dire, pour réparer, il faut déjà avoir prendre conscience donc du coup qu'on a blessé. Mais souvent on peut dire, mais pourquoi réparer étant donné qu'il nous aime gratuitement? Donc pourquoi réparer un amour qui nous aime gratuitement? Bah, je vais essayer avec Sainte Marguerite Marie de vous montrer que c'est quand même justifié. Alors, vous allez sûrement avoir des moments, peut-être des haut-le-cœurs en vous disant « Waouh, ça fait peur !» Mais alors, c'est Sainte Marguerite Marie. Ceci dit, elle a quand même un message, parce qu'elle est quand même sur les autels, donc l'Église l'a canonisée. Elle n'est pas notre grande sœur pour rien. C'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus à imiter, mais elle a quand même une leçon à nous donner, un enseignement à nous faire passer. Hein, il ne faut pas, l'enfermer dans ses austérités, parce que souvent on fait un raccourci sur Sainte Marguerite Marie, et on a tendance à se dire c'est une sœur qui était austère, elle vivait que de mortification. C'est sûr qu'elle, on peut pas. Moi, j'ai entendu ça des fois à la visitation, qu'elle n'est pas du tout perçue comme une visitandine, hein, parce qu'elle s'est éloignée de la douceur de notre saint fondateur, ce qui est faux, absolument faux. Si vous lisez les lettres de Sainte Marguerite Marie, vous verrez, il n'y a que des citations de notre saint fondateur. Hein. Par contre, et ça vous allez le découvrir maintenant, elle était brûlée par l'amour du cœur de Jésus. Alors, une âme qui est brûlée, c'est nous qui sommes froids. Hein. Et elle était brûlée, donc elle ne savait plus quoi faire pour dire son amour à Jésus. Hein. Nous, il faut que tous les jours, on se dise, « Mais si, tu aimes le cœur de Jésus, mais si, tu aimes le cœur de Jésus, oh bon non, je n'ai pas trop envie. » faut bien avouer, il faut que tous les jours, on remonte la pendule, hein. Pas elle. Hein. Fallait plutôt qu'elle éteigne le feu, elle. Alors, les saints sont les témoins de Dieu, du vrai Dieu, de son existence, par ce sentiment de présence, notre sainte sœur sentait continuellement Jésus présent en elle ou à côté d'elle. C'était sensible. Son action, ses perfections leur ont été manifestées au sein. Son action les a transformées intérieurement et leur a conféré une puissance surhumaine. Notre sainte sœur est un témoin de la sainteté de Dieu. Elle l'a contemplée sous le double aspect de la justice et de l'amour. La sainteté de Dieu, c'est sa transcendance absolue, sa pureté transparente, son éloignement infini du mal, son adhésion totale au bien. La sainteté de Dieu, c'est sa perfection. Ce thème est dominant dans les écrits de Sainte Marguerite Marie, dans son autobiographie et dans ses lettres. Cette sainteté qui lui est manifestée a deux caractères essentiels. Elle est une sainteté de justice, un mot qui aujourd'hui, qui implique des exigences de pureté, donc pour soi-même de purification constante, et pour les autres, les âmes. Hein, qui lui sont confiés, de réparation et de substitution. C'est ainsi que Sainte Marguerite Marie s'enfonce dans l'expiation compensatrice. La première me ferait souffrir une espèce de purgatoire. Donc, elle évoque cette sainteté de justice. Douloureux à supporter pour soulager les saintes âmes qui étaient détenues, auquel il permettait, selon qu'il lui plairait, de s'adresser à moi. Et pour sa sainteté de justice, si terrible et épouvantable aux pécheurs, elle me ferait sentir le poids de sa juste rigueur en me faisant souffrir pour les pécheurs et particulièrement pour les âmes qui me sont consacrées, dira Jésus à Sainte Marguerite Marie. Mais elle est aussi, et c'est ici qu'apparaît l'équilibre de ce message doctrinal, une sainteté d'amour, qui comporte des exigences corrélatives d'union, d'égalité dans l'union, de transformation. Et dans la logique de cette deuxième exigence, Sainte Marguerite Marie poursuit l'œuvre merveilleuse, rendue possible par la grâce, d'une identification progressive avec Jésus dans sa prière, son silence, son œuvre rédemptrice. Notons en outre, pour traduire exactement l'expérience ineffable qu'elle nous rapporte dans les caractères qui la constituent, que ces deux saintetés, ce double aspect de la sainteté de Dieu, lui est révélé personnellement. Elle ne l'a pas lu dans les bouquins. Mais par contre, aujourd'hui, quand on parle de la miséricorde, il y a deux aspects, la sainteté et la miséricorde, l'amour. Alors nous, aujourd'hui, quand on parle de la miséricorde, on fait des tranches. On ne peut pas tenir le mystère de la miséricorde avec la justice, justice divine et l'amour, la miséricorde. Hein. On perçoit la sainteté de Dieu, d'un côté la miséricorde, donc pour beaucoup c'est « il me pardonne », c'est vrai, mais il y a la justice. Hein. Et cette justice, on va continuer, elle est, prise par la miséricorde. Hein. Ce n'est pas un Dieu vengeur qui va nous ajuster à lui, c'est un Dieu miséricordieux dans lequel il y a la justice. Ça veut dire qu'il ne pourra pas vous pardonner quelque chose que vous ne regrettez pas. Beaucoup, on a fait passer ce message avec ces années qui ont été des fois dédiées grâce à des années jubilaires de la miséricorde, que Dieu pardonne. Ah ben oui, et il l'a redit à Sainte Marguerite Marie, il l'a redit à Sainte Faustine. Mais si vous faites la démarche du pardon, comment voulez-vous qu'il vous pardonne si vous venez pas lui demander pardon ? Et du coup, dans cette fausseté, on va dire, ce mensonge, je suis désolée, il faut appeler les choses comme, par leur nom, eh bien, je ne sais pas si vous avez besoin de lumière, de cesser un peu... vous avez besoin de lumière ? Non ? Voilà. Eh bien, je veux dire, dans cet aspect de mensonge, du coup, tout est permis. Dieu me pardonne, tout est permis. Ben non, si tout est permis, certes, tout est permis à partir du moment où on se reconnaît pécheur, et de fait, confession après confession, donc sang précieux après sang précieux qu'on reçoit sur notre âme, on peut repartir. Hein, mais on a besoin d'être ajusté à sa volonté. Et c'est ça la miséricorde. Moi, souvent, on se dit, ben voilà, c'est un petit peu l'effaceur. Hein, vous savez, il efface la faute. Non, la grâce, c'est même de faire. Pas avec culpabilité, bien entendu, de faire mémoire des péchés qu'on a pu éventuellement pécher pardonner, on va dire, hein, du chemin qui a été parcouru en disant « il est allé jusque-là me chercher ». Tous, on a tous des histoires plus ou moins cassées, cabossées, mais c'est pas grave ça. Mais pour chacun, c'est le péché qu'on a commis, il est difficile. Hein, mais c'est parce que j'ai fait la démarche du pardon que je peux repartir aujourd'hui. Hein. Donc il n'y a pas de péché qui serait pour lesquels on dirait quel dommage d'avoir péché, d'avoir fait ça, c'est moche quoi. Ah ben le péché restera toujours une laideur, ça c'est sûr. Par contre, et c'est là que la miséricorde nous rejoint, Dieu sait, et pour ça qu'il permet tout, jusqu'au péché. Il savait, lui, qu'en faisant tel et tel acte qui pouvait être l'horreur pour vous, eh bien, affreux, eh bien, il allait pouvoir déverser sa miséricorde et de ce péché découler un acte d'humilité, de se recevoir de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas... il ne vous demande pas de péché, il faut résister de toutes ses forces au péché, mais dans le péché, il y a une éducation à l'humilité et du coup, une éducation à recevoir la miséricorde. On est quand même loin de l'effaceur ou de la machine à laver, vous savez, le truc, toutes ces caricatures, voilà, qu'on a pu, faire de la miséricorde. Alors, donc ce double aspect de la sainteté de Dieu lui est révélé personnellement, donc s'impose à son esprit comme une vérité qu'elle n'a donc pas apprise, mais qu'elle reçoit, et elle écrit au Père Croiset, qui est son Père spirituel, « M'ayant fait voir dans ce cœur adorable deux saintetés, l'une d'amour et l'autre de justice, cette double sainteté s'exerce continuellement sur elle, et est la source de son martyre. Toutes deux très rigoureuses en leur manière, et lesquelles s'exerçaient continuellement sur moi. » Cette sainteté produit en elle un feu intolérable de purification. Je me sentais brûlée d'un feu si ardent qu'il me pénétrait jusqu'à la moelle des os. » Fin de la citation. Elle expérimente à quel point Dieu est un feu consumant, dont le buisson ardent fut le symbole. Et saint Jean de la Croix, dans La vive flamme, en décrit les effets. En effet, cette double sainteté lui intime un programme à conséquences personnelles et sociales. Quand vous êtes brûlé à l'intérieur et que vous avez une conscience plutôt aiguë du péché, de la tâche, on va dire, hein, vous savez, ce qu'on nous on appelle des fois, c'est un petit péché mignon. Bah, chez Sainte Marguerite Marie, on n'a pas trop, quoi. Elle répare pour elle et pour les autres. Hein, c'est une vocation, et c'est la nôtre, hein, je suis désolée, hein, c'est pas Sainte Marguerite Marie. Hein. Cette réparation, ces conséquences hein, de cette justice sur nous et à la fois de cette miséricorde qui s'exerce sur nous, elle a des conséquences personnelles. Comment moi, je vais réagir face à mon quotidien, et puis socialement. Je l'ai dit plus d'une fois, hein, je suis pas du tout d'accord, moi, avec ce langage. Oui, le monde est pourri, vivement que ça change. Ah bah ça, c'est sûr, on espère, mais est-ce que toi, tu changes? C'est d'abord de ça qu'il s'agit, hein, ce climat actuel qui ne fait que s'accentuer de violence et d'insécurité, et puis, enfin, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais moi, je peux pas être, enfin, voilà. Et on est en plein carême. Hein. Alors, c'est sûr, c'est pas moi qui prends les décisions qu'a pu prendre M. Trump ou M. Macron ou je sais pas trop qui. Mais en attendant, dans l'invisible, je veux croire et je crois de tout mon cœur et que la manière dont je vais vivre la charité avec vis-à-vis de mes sœurs aura une influence sur tel et tel comportement d'homme politique. Et c'est trop facile de faire comme Pilate et de s'en laver les mains. Désolée. Hein. Alors c'est sûr, hein, c'est pas ça met un certain un petit peu de d'exigence par rapport à notre manière de vivre et puis de sérieux. Hein. Quand on voit, enfin aujourd'hui, il faut s'amuser. Enfin c'est toujours le loisir. Je suis pas contre moi, mais je veux dire la vie c'est sérieux. On prépare notre vie éternelle. Hein. Et on ne la gagne pas à coup de mortification, mais on se prépare par le vide qu'on va faire intérieur en laissant le Seigneur nous remplir de plus en plus, heure de présence après heure de présence. Parce qu'on l'a dit, la sainteté c'est ça, c'est se laisser remplir par le Saint avec un grand S, et on a vu c'est qui ? Bah, c'est Dieu. Hein ? Alors comme Sainte Marguerite, comment Sainte Marguerite Marie caractérise-t-elle cette sainteté de justice? Celle-ci ne peut souffrir la moindre tâche dans mon âme. Voilà. On entend ça chez les saints. Voilà, dès que j'ai manqué de douceur avec tel, avec mon mari, je vais changer, c'est pas toujours moi. Et avec mon mari, voilà, j'ai pas été, j'ai manqué d'abandon. J'ai fait trop de calculs dans ma tête. C'est sûr que c'est pas. C'est pas des péchés, j'ai pas volé sur l'étalage au marché, ça c'est sûr. Mais j'ai toute ma journée, j'ai tourné dans ma tête comment j'allais faire pour organiser ma journée, etc. Bah, je suis désolée, pour moi c'est un manque d'abandon. C'est plus méritoire et vertueux de couper court au disque et dire à Jésus je t'aime à la place. C'est ça l'abandon, hein. C'est pas tout roule, Jésus, je suis abandonnée à toi. C'est ça l'abandon, non?
Non, mais quand on est tout le temps dans la tête, on ne peut pas avoir un véritable dialogue.
Comment?
On ne peut pas avoir un véritable dialogue, et puis au bout de ce dialogue, on lâche après.
Alors, si vous voulez, il y a des purifications qui font, et puis selon les personnalités et les histoires, que. On pense que pour pouvoir organiser sa journée, et puis même avec un entretien difficile avec une personne, je le commence dans ma tête. Oui, mais si elle me dit ça, je vais pouvoir dire ça, et puis ça, faut pas que j'oublie de lui dire, et puis si, puis ça, et puis après, faut pas que j'oublie de faire ça, vous voyez, voilà. Voilà. Après, faut couper court.
D'accord.
On dit à Jésus, tu vas organiser, quoi, hein, je m'abandonne à toi. Ah, mais ça revient dans la tête. Ou alors dès qu'on fait quelque chose, on est un peu en silence, tac, ça revient dans la tête. Oui, mais si elle dit ça, qu'est-ce que tu as ? Alors, soit il y a deux solutions, les enfants dans la fournaise, ça veut dire on se laisse brûler par les pensées, ça tape, mais on ne tient pas le discours avec. C'est-à-dire qu'on ne monte pas le scénario. On n'apporte pas de l'eau à son moulin. Donc on subit, clac, 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 ça tape dans la tête. Des fois, ça peut aller faire jusqu'à faire mal. Hein. Et ça fait partie de la purification, de la mémoire et de la volonté, hein, de l'esprit. Il y a beaucoup de choses qui passent par là. Et même des choses sur lesquelles on n'a pas conscience. Hein. Par contre, si vous réussissez à couper court, c'est-à-dire que voilà, le petit scénario commence à se monter, parce que je ne veux pas être prise en dépourvu, quoi. Donc, vous voyez bien la maîtrise qui est derrière, c'est de l'orgueil. Hein. Et bien, je vais dire un Ave Maria à chaque fois que ça vient. Et je ne lâcherai pas le morceau, je dis mes Ave Maria comme je prendrais une mitraillette. Hein, et je maintiens mon Ave Maria. Et au bout d'une demi-heure, des fois c'est plusieurs jours, ça dépend comment on est fait. Et puis l'enjeu qu'il y a derrière, et bien, hop, c'est parti de ma tête. Et là, waouh, grande paix. Hein, c'est ça l'abandon. L'abandon, ça s'achète. Hein. Ça s'achète pas avec un lâcher-prise. Hein. C'est pas ça l'abandon. C'est par un laisser-faire. En fait, se laisser faire par Dieu. Alors moi, je crois, mais je ne suis pas la seule. Il y a d'autres grands spirituels qui croient. Dont Saint François de Sales, dont Chapman, qui est un abbé bénédictin et qui a été très nourri de Saint François de Sales, qui dit que aucune pensée, voire inutile, ne vient de nous, mais que de Dieu. Dieu peut mettre dans la tête des pensées, exagérer des sentiments. Il part obligatoirement d'une origine qui est vraie. Ça veut dire, j'ai bien un rendez-vous avec telle personne et qui m'inquiète. Donc ça, c'est vrai. Par contre, derrière, il va s'amuser, parce qu'il s'amuse, parce qu'il nous aime. Il nous veut à lui tout entier. Donc, il va permettre ses purifications. Et ça passe par un quotidien qui est le vôtre, qui est le mien. Un rendez-vous avec lequel je m'inquiète. Et là, waouh, ça y est, c'est parti. Et si on n'a pas l'habitude de couper court, mais qu'on est persuadé que plus je vais tourner ça dans ma tête, faire le scénario, je vais posséder mon sujet, c'est perdu. Hein, et du coup, il y a bien qu'on se met à l'origine, qui est l'inverse de l'abandon, où on se reçoit de Dieu. Est-ce que c'est compris ? Alors attendez, hein ? Voilà, c'est du combat spirituel, tout à fait. Ouais. Oui ? Voilà, donc voilà. Mais, donc, madame, elle cite Dolindo, c'est à toi d'y penser, c'est certain, mais il y a quand même des étapes où vous aurez beau dire « Jésus, c'est à toi d'y penser », il va falloir que vous le disiez jusqu'à en avoir plus de salive. Parce que ça tape, ça tape, ça tape. Hein. Et on n'est pas maître, ou alors, moi je ne veux pas être faite comme vous, et ça dépend des périodes de la vie, du combat spirituel et du coup de l'avancement dans la sainteté. Faut dire les choses, enfin, je ne sais pas si vous enviez, enfin, vous avez envie d'être saint. Hein, voilà, donc, et bien, du coup, dans ce chemin de la perfection qu'est la sainteté, ce détricotage de la manière dont on s'est construit, hein, c'est ça, là, il va nous détricoter, et il va permettre ce petit martyr là. Hein, il faut dire oui parce que c'est lui qui était à l'origine, je me bats pas contre, par contre, je me laisse faire, se laisser faire, hein, et vous verrez, enfin. Si vous êtes certain en l'expérience, je suis sûre que vous direz « Ah, ben, il y a des choses qui se sont faites par ce genre de combat que j'aurais jamais pu faire tout seul. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il atteint des choses en nous très, très, très profondes dont nous, on n'a même pas connaissance. Hein ? Il nous a fait, on est à lui. Ben, alors, évidemment, aujourd'hui, l'homme se met à l'origine de l'homme. Ou du robot. Ah, excusez-moi, c'est vrai que c'est pas un homme, l'intelligence artificielle. Ah, excusez-moi. Et voilà. Donc, alors comment Sainte Marguerite Marie caractérise-t-elle cette sainteté de justice ? Donc, je l'ai dit, elle exterminerait mille fois les pécheurs si cette amoureuse miséricorde ne se mettait entre eux. Rien ne lui échappe, pas la moindre souillure, et rien ne reste impuni. On ne peut rien cacher à Jésus, mais à la fois je trouve ça extraordinaire, et tant mieux. Elle éclaire le pécheur, mais sans le convertir. Elle l'endurcit, elle est redoutable pour les âmes criminelles, elle est compensée par la sainteté d'amour, mais ses exigences spécifiques doivent être satisfaites par la substitution. Alors, c'est un mot peut-être compliqué, je vais le remplacer par âme victime. Et on accepte de porter, pour l'amour du cœur de Jésus, un mal de tête. Et je garde mon sourire, je vais surtout dire rien à personne, et je vais permettre justement à une âme de pouvoir accueillir quelque chose qui lui est difficile et dont elle est dans l'incapacité d'accueillir. C'est ça la substitution. C'est prendre quelque chose sur soi à la place qu'une personne le vive, à la place d'une personne, parce qu'elle n'en est pas capable. Alors ça, ce sont des vocations certes particulières. À la visitation, une fille de la visitation Sainte Marie, une fille d'oraison, toutes les appellations que j'ai nommées tout à l'heure, on est par vocation âme victime. Mais je suis désolée, c'est lié au baptême. On est tous appelés à être des âmes victimes. Par contre, il y a deux solutions. Je donne un exemple. Là, je reprends mon exemple du mal de tête. Il y a deux solutions. Je prends un effaralgan, enfin du paracétamol, ou je dis à Jésus, voilà, ça ne met pas en péril ma santé, je veux le voir venir de toi. Il est à l'origine de tout. Je veux le voir venir de toi, donc je le vis avec toi et pour toi, pour une âme. Voilà. Alors Sainte Marguerite Marie, comme elle avait Jésus à côté d'elle, en elle, elle sentait, elle lui parlait comme moi je vous parle, elle pouvait lui demander, bon, c'est pour qui ? Elle savait, elle, pour qui elle souffrait ça. Nous, bon, jusqu'à maintenant, personne en est là. Et ce qui n'empêche, c'est pas pour autant qu'on n'est pas appelé à le vivre. Du coup, on va le vivre dans l'invisible. Voilà. Et moi, souvent, je dis à mes sœurs, quand vous êtes à l'heure à sonner la cloche pour l'office, et pas en retard, votre fidélité porte la fidélité d'un couple dans l'invisible. Et tous ces gens qu'on aura aidés, vous rendez compte la fête quand on arrivera là-haut. On sera donc tous plus ou moins responsables les uns des autres de notre avancement. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et on peut déjà en vivre ici. Ce sera là-haut, mais on en vit déjà ici. Comment ?
Ce sera un super sang tous.
Voilà, exactement, tout à fait. Ah oui, c'est clair. Alors, c'est vrai que quand on voit... si vous comparez, on va dire, ce que je viens de dire, cette vie à laquelle on est appelé, qui commence déjà aujourd'hui, avec cette ambiance dans laquelle on essaie absolument de vous mettre la tête dedans, je ne dis pas de nier la réalité, la vérité rend libre, enfin je veux dire, on sait, voilà, il y a assez d'infos à circuler, de savoir tout en détail, je pense pas que ce soit nécessaire, mais voilà, on sait très bien que c'est grave, et que ça peut, et que c'est en train de s'enflammer, ça on le sait. Mais est-ce que, face à cette réalité du ciel, à ce qu'on est appelé, est-ce que ça ne vaut pas le coup, entre guillemets, d'utiliser la situation qui fait peur pour justement vivre déjà cette vie victimale, cette expiation d'entrer dans cette démarche de la réparation.
Excusez-moi,
oui.
Quand vous parlez de la sainteté de justice,
ouais.
Est-ce que ça veut dire que toutes les offenses depuis la création... doivent être réparés comme sur les plateaux d'une balance, d'abord par la passion du Christ et ensuite par la passion avec un petit P des uns et des autres.
Voilà, exactement. Alors, on le verra, parce que là, je suis loin d'avoir terminé mon explication sur la justice. Non, c'est pas grave. Et, mais c'est bien de poser la question, parce que c'est vrai que nous, on est donnant-donnant. Et du coup, si vous voulez, en somme... Tout sera, comment dirais-je, passé par la justice, parce qu'on ne peut rien cacher à Jésus. Et en même temps, si vous voulez, il y a cette communion des saints qui fait que, et puis ces confessions qu'on réitère. Alors, nous, je vous dis tous les 15 jours, si vous pouvez, c'est tous les mois, c'est dans l'idéal. N'attendez pas, c'est pas pour faire ses Pâques. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais pu comprendre ça. Et je veux dire, attendre une fois l'an pour faire ses Pâques, enfin, c'est un peu tard, quoi. Maintenant, si petit à petit vous y revenez à la confession, bah alléluia, ou excusez-moi, c'est carême, mais quand même, hein, mais faut pas attendre, quoi. Par contre, on parlera tout à l'heure dans la réparation, enfin pas la prochaine fois, parce qu'on va pas avoir le temps, ce qu'on appelle la satisfaction, hein, et ça fait partie, hein, de la réparation, mais ça fait aussi partie du rituel de la confession. Hein. Il a satisfait par la passion et ses mérites, le sang, donc la mort, la passion, la mort et la résurrection. Il faut tout. Hein. Par ses mérites, son sang, il nous a rachetés. C'est ce qu'on va célébrer dans 2 semaines. Par contre, à chaque fois que vous allez vous confesser, on vous donne une pénitence pour justement pour satisfaire à cette justice. Hein. C'est pour ça que si un confesseur ne vous donne pas de pénitence, eh ben, faut l'en demander. Faut en demander une. Et alors, un petit « Je vous salue Marie », comme disait le père Guibert, souvent c'est ça, hein, on croit, et c'est pas du tout proportionné à nos péchés, hein, mais c'est pas, c'est pour ça que quand vous parlez de proportion, ben non. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la passion de notre Seigneur qu'on va revivre, mais qu'est-ce qu'il faut faire devant le Saint des Saints, pour réparer ? On ne sera jamais ajusté. Donc, voilà, ça dégonfle, quoi. Ça déculpabilise. C'est pas la sainteté de justice ne doit pas nous faire rentrer dans une culpabilité, hein, mais plus d'amour. Parce qu'il demandera à Sainte Marguerite Marie donc de porter, hein, sur elle, c'est Sainte Marguerite Marie, hein, de porter sur elle cette justice. Mais à côté de ça, il lui donne cette sainteté d'amour qui la brûlait. Et nous, on aurait bien aimé justement avoir cette sainteté d'amour. Mais on lui laisse la justice. Hein. C'est-à-dire que l'amour, c'était tous les jours le ciel, si vous voulez. Quoi. Et alors ça, Jésus, ça, je le veux bien. Quoi. Mais je vous ai dit, hein, ça équilibre. L'amour équilibrait la justice. Et quand on se présentera, parce qu'on y croit ou qu'on ne croit pas, je suis désolée, tout le monde va se retrouver un jour ou l'autre devant Dieu. Et on sera mis devant cette sainteté. Et c'est nous-mêmes qui nous jetterons soit au purgatoire ou soit au paradis. Mais c'est pas le Dieu qui... en fait, le jugement, ce sera nous-mêmes qui nous le donnerons face à cette sainteté de justice et de miséricorde. Et c'est justement cet amour qui prendra en charge cette justice. Voilà. Sinon, j'irai quelque part, quand vous allez entendre la passion et la manière dont il se donne sur la croix... Et tous les saints le disent, la croix est l'expression la plus haute de son amour. Sa passion est la plus haute de son amour. Donc, on ne peut pas avoir peur. Par contre, si là, aujourd'hui, vous dites, oh, quand même, la sœur exagère, moi, ça me fait quand même peur, hein, j'ai des trucs qui me reviennent, moi, je suis désolée, hein, ce n'est que de l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui nous fait peur. Voilà. Peur vis-à-vis de nous-mêmes. Comment vous voulez avoir peur devant Dieu? Mais comment on regarde Dieu? Au travers de son orgueil. On n'a pas les bonnes lunettes. On a les lunettes, mais on n'a pas les bons verres. C'est tout. Il faut changer les verres.
Ou alors on n'a pas essayé les
verres. Voilà, c'est ça. Et pour changer les verres, c'est de vivre, à cause de l'heure, j'ai courte, parce que je voudrais parler de vous aider sur la dernière partie du carême. Et du coup, si on a peur, c'est, je veux dire, confession après confession, qu'on va justement mesurer que, il me pardonne. Et tout, à chaque fois, je reçois la grâce par son sang précieux de repartir, c'est-à-dire ne pas retomber dans les mêmes péchés. Et surtout, c'est cette vie avec le Sacré-Cœur, c'est-à-dire c'est votre heure de présence prolongée sur toute la journée qui fera que, comment voulez-vous, en puisant tous les jours dans la source qui est l'amour par excellence, vous pouvez avoir peur. Par contre, si vous puisez tous les jours dans un cœur qui est frelaté, c'est-à-dire des spiritualités, des courants de je sais pas quoi, de idéologues, vous voyez, des choses qui sont aujourd'hui qu'on dit c'est ça qui va vous sauver, C'est sûr que vous allez avoir peur. Donc des pseudo-religions, des pseudo... pour moi, c'est charlatan, c'est tout ce que vous voulez. Je ne veux pas faire la leçon à qui que ce soit, mais je suis assez impressionnée quand on prend l'écriture sainte. Quand, par exemple, si je prends l'Exode, parce que le carême, c'est quand même ça, avec Moïse, et puis les Hébreux qui quittent l'Égypte, quand Dieu se révèle à Moïse, il y avait plein de dieux. Hein. Quand il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, mais celui du voisin, il disait la même chose. Donc, ma tante est qui, quoi. Alors, il va se révéler, bien sûr. Aujourd'hui, je suis désolée, c'est pareil. Tout le monde a son Dieu. Hein. Mais nous, on a le Dieu qui s'est révélé par Jésus-Christ et avec l'Esprit-Saint. Donc, c'est un Dieu trine, mais unique. Et il faudrait un petit peu aller plus loin en se disant, mais si il s'est révélé de cette manière, et j'ai toute la parole de Dieu qui me dit qu'il est le vrai Dieu, je répète, le vrai Dieu, comment ça se fait que j'entends, moi j'ai aussi le vrai Dieu. Mais il n'a pas dit que c'était le vrai Dieu. Je ne vais pas nommer parce que je fais quand même attention. Je pense que vous avez un peu perçu... à quoi je pensais, hein, qui nous envahit actuellement, si vous voulez, hein, et où actuellement ça prend feu, je suis désolée. C'est peut-être une religion, mais c'est pas... Vous avez compris ? Voilà. Voilà. Alors, dans ces cas-là, on fait mentir les Écritures. Il faut être clair. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est si vous allez toujours puiser au cœur de Jésus... Vous ne pourrez pas avoir peur, c'est impossible. Par contre, si vous allez puiser dans des spiritualités, je suis désolée, où il y a beaucoup de violence. Les premiers adeptes ont été, faits par la violence. Donc, excusez-moi, je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'il a appelé ses premiers disciples, Jésus. Hein? Vous avez du poisson, les garçons ? Mes petits enfants, même. Hein? Voilà, bon, après, je laisse libre de penser qui, ce qu'on veut, hein. Alors, à cause de l'heure, ce que j'aimerais tenir les horaires, mais je voulais pas vous laisser, donc on prendra la suite, bien entendu, de ce que je viens de dire, parce qu'on est loin d'être arrivé à ce qui était prévu, mais c'est pas grave, le Saint-Esprit conduit, puis on a toute la vie, comme j'ai tendance à dire avec mes sœurs novices. Eh bien, je voulais vous laisser, justement sur le... On le verra peut-être dans la prochaine fois ou l'autre, ou encore après, que un des moyens de réparer, c'est justement cette conversion. Et vous, conversion de soi, hein, avant de parler de la conversion des autres, faut d'abord parler de la sienne. Et quand tout le long du carême, là, donc demain, le dimanche du Létaré, donc la pause, on va dire, pour réparer, nous, vous voyez, on va avoir l'adoration, on répare pour les carnavals. Hein, c'était notre Seigneur qui avait demandé à Sainte Marguerite Marie. Hein. Et du coup, donc cette pause dans le carême, tout le long avec l'écriture, vous avez entendu parler de conversion. Hein. Et du coup, je voulais vous faire profiter d'un texte, alors je ne vais pas tout lire parce que j'ai malheureusement pas le temps, mais en même temps, je ne fais pas de la publicité pour moi, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des bons ouvrages où on parle de choses qui nourrissent les âmes et des choses sur lesquelles, malheureusement, on n'entendra plus jamais parler, quoi, parce que tout le monde a un petit peu peur de dire les vérités qui nous font avancer. Hein. Alors, c'est un texte du père Jean-Nicolas Groux, G-R-O-U, voilà. C'est un manuel, donc ça a été réédité parce que nous on les possède mais avec des reliures beaucoup plus anciennes. Donc ça s'appelle Manuel des âmes intérieures. Et tout à l'heure, je vous évoquais, l'orgueil. Il fait une description, il y a un texte, magnifique sur l'orgueil, même si l'orgueil c'est horrible, mais un texte magnifique sur comment comprendre, qu'est-ce que c'est que l'orgueil jusqu'à la superbe. Et voilà, c'est d'une finesse. Enfin, je veux dire, on n'écrit plus ça, quoi, aujourd'hui. Hein. Et toujours, si on sait ce que c'est aujourd'hui, ce que c'est que l'orgueil. C'est la bonne volonté, aujourd'hui, l'orgueil. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est donc un livre très intéressant. Et donc, Jean-Nicolas Groux, le père, donc, il il est d'époque de la Révolution française, il quittera la France pour s'exiler au moment de la Révolution en Angleterre. Et il avait un lien avec la Visitation à travers une sœur. Et voilà, moi on me l'a fait connaître, j'avoue, moi c'est des textes qui nourrissent nos âmes, qui nous mettent dans la lumière, dans la vérité, hein. Même si, c'est sûr, aujourd'hui on n'entend plus ça, mais c'est pas grave. Voilà, alors un petit passage sur du bon usage de nos péchés. Voilà. Des péchés, nous en commettons toujours, c'est la petite intro du Père Max. Donc c'est, je le reprends dans un manuel « Se confesser » du père Max Huot de Longchamp, qui là aussi, c'est des livres de grande qualité. Hein. Un jour, si Dieu me prête vie, ce serait bien qu'on aborde le thème de la confession. Je sais qu'il y en a qui se posent des questions, c'est compliqué. Et à la fois c'est super simple, et puis c'est un sacrement qui est beaucoup boudé, et alors que c'est un sacrement qui accorde énormément de grâce dans la vie spirituelle. Nous en commettons toujours. Quoi qu'il arrive, allons-nous en désoler. Mais ne nous en décourageons pas. Ou allons-nous en profiter pour nous abandonner davantage à l'amour de Dieu. Donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. L'article que je vais traiter est un des plus importants de la vie spirituelle. Donc ça, c'est le bon père Gros. Il est certain que dans les vues de Dieu, les fautes, où il permet que nous tombions, où il permet... permet chez Dieu ses vouloirs, doivent servir à notre sanctification. Intéressant. Et qu'il ne tient qu'à nous d'en tirer cet avantage. Là, c'est le fameux laisser faire. Hein. Je me laisse faire par le péché, dans le sens où je vais en tirer une remarque pour lever mon petit pied. Il arrive néanmoins au contraire que nos fautes nous nuisent moins par elles-mêmes que par le mauvais usage que nous en faisons. Ce que j'ai à dire sur ce sujet ne regarde point ces âmes lâches et intéressées qui usent de réserve avec Dieu et qui ne veulent être à lui que jusqu'à un certain point. Je n'ai pas ces personnes-là devant moi. Elles font avec vue et réflexion mille fautes dont il est impossible qu'elles tirent aucun profit vu la mauvaise disposition où elles sont. Les personnes pour qui j'écris ceci sont uniquement celles qui sont déterminées à ne commettre délibérément aucune faute. Donc ça, c'est notre disposition. Hein. Mince. Oui, mais je n'avais pas l'intention. Vous voyez, c'est autre chose que « Oh, bon, alors, c'est pas grave, je vais aller me confesser. » Moi, j'ai déjà entendu ça. « Oh, c'est pas grave, je vais aller me confesser. Il va bien me pardonner, le bon Dieu, il est si bon. » Ah, oui, ça, c'est sûr. Vu comme ça. Ne commettent délibérément aucune faute et à qui pourtant il en échappe beaucoup, nonobstant leur résolution par premier mouvement, par inadvertance, par faiblesse. Il leur arrive d'ordinaire de s'étonner de leur faute et de s'en troubler, d'en avoir une mauvaise honte, de se laisser aller au dépit, au découragement. Ce sont là autant d'effets de l'amour propre, effets plus pernicieux que ne le sont les fautes mêmes. On s'étonne d'être troublé, on a grand tort, et c'est une marque qu'on ne se connaît guère. On devrait au contraire être surpris de ne pas tomber plus souvent et en des fautes plus graves et rendre grâce à Dieu des chutes dont il nous préserve. Vous voyez, c'est pas la même façon de voir sa journée et même de faire son examen de conscience. On se trouble chaque fois qu'on se surprend dans quelque faute. On perd la paix intérieure, on est tout agité et l'on s'en occupe des heures, des journées même entières. Il ne faut jamais se troubler, mais quand on se voit à terre, il faut se relever tranquillement, se retourner vers Dieu avec amour, lui demander pardon et ne plus penser à ce qui est arrivé que quand il faudra s'en accuser. Intéressant. C'est pas à la longue d'y penser que je vais pouvoir me changer. C'est qui nous change? Pas la conscience d'avoir péché, mais Dieu qui me change, la sainteté de Dieu qui me change. Encore, si dans la confession même on vient à l'oublier, il ne faut pas s'en inquiéter. Cacher volontairement un péché est un péché. J'ai oublié de le dire. Jésus, tu l'as permis, tu permets tout. Voilà. On a une mauvaise honte de ses fautes, à peine ose-t-on les déclarer au confesseur. C'est un des signes pour se rendre compte. Quelle idée aura-t-il de moi après tant de promesses, tant de protestations que je lui ai faites? Alors des fois, nous on ne peut pas le faire, parce que nous c'est toujours le même confesseur qui vient. On ne sort pas, donc c'est le prêtre qui vient nous confesser à l'intérieur. Enfin, il y a un confessionnal, c'est super bien fait. On ne sort pas autour de clôture, il y a une grille qui nous sépare. Et puis le prêtre arrive derrière la grille et puis on se confesse. Mais vous qui pouvez changer de confesseur, c'est un des signes pour savoir qu'on a honte, hein. Oh bon, je vais pas aller me confier à celui-là parce que là j'ai un truc dont j'ai trop honte, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Alors, bon voilà, je choisis quelqu'un qui ne me connaît pas. La prochaine confession, je prends quelqu'un encore, un autre qui ne me connaît pas encore. Hein. Ou, plus subtil, pour confesser la superbe, c'est-à-dire cet orgueil spirituel hein, qui est vraiment terrible, eh bien, on va même chercher le confesseur avec lequel on sait, qui nous dira le conseil qu'on sait qu'il pourra nous dire et qui nous plaira. Hein. Eh oui hein. Alors, tant mieux si vous n'êtes pas là-dedans, j'irai tant mieux si vous êtes là-dedans, parce que s'il vous le montre, c'est qu'il veut vous en débarrasser. Hein. Dieu, il est vérité, hein. Il est amour et c'est ça son amour. Hein. C'est pas... moi, je dis souvent le truc qui dégouline, vous savez, la guimauve, le côté marshmallow, c'est pas ça l'amour de Dieu. Hein. Si vous avez de la peine à les lui dire, il ne pourra s'empêcher intérieurement de vous taxer d'orgueil. Sa confiance en vous diminuera, voyant que vous n'avez pas assez d'ouverture pour lui. Mais voici le pire. On se dépite, on se fâche, comme dit saint François de Sales, de s'en être fâché. On s'impatiente de s'être impatienté. Quelle misère! Ne devrait-on pas voir que c'est orgueil tout pur, qu'on est humilié de se trouver à l'épreuve moins fort, moins saint qu'on ne croyait, et qu'on aspire à être exempt d'imperfections et de fautes que pour s'en applaudir en soi-même? On a entendu ce matin à l'évangile, hein. Oh, moi je suis pas, je suis pas, comme on dit, celui qui vole, celui, etc. Et vous voyez, puis après je vais m'arrêter, un petit truc, moi je lis l'Écriture sainte, enfin j'essaye, avec la Vulgate, la traduction de la Vulgate en français, et pas, même si je la lis quand même de la liturgie, mais j'aime bien la Vulgate. Et donc c'est la forme latine, c'est celle de Saint Jérôme, la première. Et du coup, il y a ces traductions. Cette traduction, elle ne fait pas sauter des mots qui, aujourd'hui, à la lecture, à la messe, pourraient mal sonner un peu trop à nos oreilles. Donc du coup, on passe à côté de choses intéressantes. Hein. Et là, c'était intéressant de voir quand il dit que le publicain était debout. Ben non, il était en avant. Le pharisien n'était pas, dans l'évangile c'est mis, il était debout. Dans la Vulgate il est mis, il était en avant. Le publicain, lui, il est, alors la traduction de la Jérusalem ou de liturgique c'est, il était à distance, et dans la Vulgate il était éloigné. Vous voyez, en avant. Pour définir qu'il était dans l'orgueil, hein, parce qu'il disait moi je suis pas ci, moi je suis pas ça. Et quand on se met en avant, une autre définition de l'orgueil, c'est intéressant. Voilà un des pièges les plus subtils du démon. Voulez-vous vous en garantir? Ne vous découragez jamais. Quelque faute qu'il vous arrive, mais dites-vous à vous-même, quand je tomberai 20 fois, 100 fois le jour, je me relèverai à chaque fois et je poursuivrai ma route, qu'importe. Après tout, que vous vous soyez tombé en chemin, pourvu que vous arrivez au terme. Voilà. Dieu ne vous le reprochera pas. Voilà une réponse. Souvent les chutes qu'on fait viennent de la rapidité de la course et de ce que l'ardeur qui nous emporte ne nous permet pas de prendre certaines précautions. Les âmes timides et qui veulent toujours voir où elles mettent le pied, qui se détournent à tout moment pour éviter les mauvais pas, qui craignent si fort de se salir, n'avancent pas si vite que les autres, et la mort les surprend presque toujours au milieu de leur course. Ce ne sont pas ceux qui font le moins de fautes qui sont les plus saints, Mais ceux qui ont plus de courage, plus de générosité, plus d'amour, qui font de plus grands efforts sur eux-mêmes et qui n'appréhendent pas de broncher, de tomber même et de se salir un peu pourvu qu'ils avancent. Voyez l'orgueil dont je fais attention, je m'auto-surveille pour pas tomber dans telle et telle faute. En fait, quand vous nourrissez, vous vous regardez dans vos miroirs, je veux être belle, quoi, je veux me plaire. Alors que la personne qui, tous les jours, elle sait qu'elle a telle et telle difficulté, lève sans cesse son petit pied, et par amour, elle accepte les humiliations qui sont liées à son péché, est plus saint aux yeux de Dieu qu'à ses propres yeux, bien sûr. Hein. Vous voyez bien sur quoi l'orgueil joue. Hein. Bon, à cause de l'heure, je m'arrête. Oui, j'ai dépassé 5. Mais voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé à parce que le père Mathieu Longchamp reprend hein, ce texte dans Se confesser à l'école des saints, mais vous le retrouverez aussi dans le manuel, parce que c'est du père Grou, des âmes intérieures. Tout ça pour vous dire, et terminer là-dessus, ce carême, hein, cette dernière partie du carême, cette conversion qui va être mise, on va mettre l'accent davantage sur cette conversion que vous avez déjà commencé et que moi aussi avec vous, même si c'est toute l'année, c'est comment je me regarde, voilà. Comment je perçois mes chutes, voilà. C'est la catastrophe. Ah oui, pour ton orgueil, oui. Et pour Jésus, non. Par contre, ben voilà, comment je m'approche du sacrement, comment je le vis. Et tout ce qui remonte me dit quelque chose de moi-même, pour apprendre à me connaître. Et du coup, comme on disait ce matin, hein, ce pharisien, il jugeait tout le monde. Il ne se voyait pas, par contre. C'est un peu nous, hein. Ben ouais, je vais à la messe tous les jours, je fais partie de tel groupe, je dis ma prière, enfin, on fait beaucoup de choses, hein. Mais on peut, jusqu'à la fin en tout cas, on nourrit hein, avec l'orgueil des fois des satisfactions d'être « heureusement que je ne ressens pas cela ». Quoi. Hein. Et voilà, c'est l'occasion de se dire ben, « voilà, j'ai peut-être ce petit côté, je ne prends pas assez conscience que Jésus permet que je tombe toujours dans ce défaut, mais ça, et je désespère, je me décourage de changer, mais au final c'est ma grâce ». Sinon, je me croirais déjà arrivé, je me croirais déjà saint. Hein. Je sens même ma couronne. Hein, d'accord. Donc, c'est ces petits défauts qui nous laissent ne pas s'en décourager et en tirer profit. Hein. C'est ça, la conversion. C'est pas d'arriver à la fin de son carême. Oh, wow, je suis contente de moi. J'ai réussi à jeûner au pain et à l'eau. Oh, j'en ai même fait rougir de honte ma voisine qui n'est même pas capable de jeûner. Alors j'arrête là. Je dis ça en rigolant, hein, mais voilà, on est tous là-dedans, tous. Hein. Voilà, exactement. Mais il faut toujours y revenir. C'est pour ça que saint Paul pouvait dire « imitez-moi ». En fait, quand il disait « imitez hein, », moi, dans le sens, c'est Dieu qui en moi hein, permet cette sainteté. Hein. C'est extraordinaire. Et ça, il n'y a rien de plus. Ça, c'est humble, en somme. Hein. Allez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On va se mettre sous le manteau de Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame de la Visitation, Saint-Joseph, Saint-Jean, Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal, Saint François d'Assise et Sainte Marguerite Marie. Bienheureuse Marie de Jésus de l'huile Martini. Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes. Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot. Et bonne poursuite et belle fête de Pâques. Et rendez-vous à 16h vendredi saint sous la croix. hein, là où vous serez, bien entendu, sous la croix, pour recevoir hein, le sang précieux, c'est le coup hein, qui sera fait, c'est l'heure en tout cas présumée de la mort du Sauveur, où on ouvrira le côté et on pourra atteindre le cœur. Et là, c'est l'heure de miséricorde, en somme. Hein, la vraie, ça, c'est, hein. Voilà, grande union. Merci beaucoup.